Bien, nous allons donc laisser la parole à Paul Tchaïkovski-Laurence, qui va nous parler, je l'imagine, d'édition. Et donc, je crois qu'il est inutile de vous présenter, sans rappeler, sait-on jamais, que vous êtes fondateur de la maison POL, qui porte vos initiales. Si vous voulez une présentation plus importante, je vous laisse le soin de la faire.
Non, écoutez, merci. Bon, ben, je crois qu'on va un petit peu revenir au codex, là, après tout ce qui a été dit, mais qui est passionnant. Donc, je suis désolé, j'ai un petit peu écrit, je m'évaderai de temps en temps du texte écrit, mais voilà. Alors, je crois qu'il était question de passeurs, de médiateurs, enfin, si j'ai bien lu le libellé, si j'ai bien lu l'intitulé de cette intervention. Alors, c'est une définition relativement récente du métier d'éditeur que celle de passeur. Il y a quelque chose d'humble dans ce mot, passeur, qui me plaît bien. Cette définition rappelle que l'éditeur n'existe que parce qu'il y a des auteurs et qu'il est à leur service. Je ne sais exactement quand elle est apparue, mais quand j'ai débuté dans le métier, au début des années 70, elle n'avait pas cours. On en était encore au temps de l'éditeur tout-puissant. Le terme d'éditeur désignait le patron, directeur ou propriétaire de sa maison d'édition. Aujourd'hui, éditeur, ça veut dire aussi ce qu'on appelait autrefois directeur littéraire. Ce patron régnait sans partage sur ses employés, des directeurs littéraires aux représentants, et bien souvent, les auteurs faisaient partie du lot des employés. Il imposait sans partage sa politique littéraire et commerciale. Les temps ont un peu changé, je trouve ça personnellement très bien. Cette dénomination de passeur est belle, car elle définit assez bien l'un des rôles de l'éditeur. L'éditeur rend public, il propose au public, il publie. Il y a un éditeur allemand, un célèbre éditeur allemand, qui est mort maintenant depuis au moins une vingtaine d'années, et que j'ai eu la chance de croiser à Francfort, qui s'appelait Lady Revolt, qui a donc donné naissance à ce géant de l'édition allemande qui est Revolt, qui a des tas de collections, y compris très littéraires. Et un jour, dans une interview, alors là, il y a deux interprétations possibles. Dans une interview, il avait dit que le rôle de l'éditeur, c'était de proposer au public des textes dont il ne voulait pas, dont le public ne voulait pas. Une variante, c'est des textes que le public n'attend pas. C'est un petit peu moins agressif et peut-être un petit peu moins radical. Mais je trouve que la première position est pas mal. Mais sans jeu de mots, ce rôle de passeur peut sembler quelque peu passif. Surtout aujourd'hui où les canaux de diffusion de l'écrit et ses relais semblent se multiplier, ainsi que les intermédiaires plus ou moins utiles. Alors je sais que ce n'est pas le sujet, mais enfin moi j'en ai beaucoup contre les agents. C'était une petite pique que je tenais à adresser au passage aux agents dits littéraires. Il y en a dans la salle. Aussi à ce rôle de passeur, passif plus ou moins, c'est aussi ajouté récemment celui de médiateur. C'est qu'entre l'auteur et le public, son public, et pour atteindre ce public, il faut convaincre beaucoup de monde. Mais encore faut-il d'abord tenter de circonscrire un peu les termes de cette triade, auteur, éditeur, public. L'auteur d'abord. Il n'y a pas un auteur doté de caractéristiques données une fois pour toutes. Il y a autant d'auteurs que d'œuvres que les auteurs composent, et s'il peut y avoir des caractéristiques psychologiques communes aux uns et aux autres, c'est possible, je n'en sais rien, je ne veux surtout pas le savoir, je ne pense pas que la psychologie nous soit dans qu'un secours dans la compréhension de la chaîne qui permet à une œuvre d'atteindre ses lecteurs. Et pour ce qui me concerne, j'aurai présent à l'esprit en parlant des auteurs, ces auteurs qui ont pour but plutôt que le succès, l'édification d'une œuvre. Le fait que des livres puis des œuvres rencontre le succès, je pense que c'est l'affaire de l'éditeur, évidemment. Son travail, nous y reviendrons. Et le fait que les auteurs désirent que leurs œuvres soient diffusées le plus largement possible ne les rend pas forcément indignes de cette qualité, la qualité d'auteur, la qualité d'écrivain. Mais disons que quand ils écrivent, les auteurs auxquels je pense, le succès n'est pas leur préoccupation, ne devrait pas être leur préoccupation. L'éditeur ensuite, après l'auteur. Je pense qu'il y a deux grandes catégories d'éditeurs. Les éditeurs de l'offre et ceux de la demande. Bon, ce n'est pas une découverte, ce n'est pas une invention. J'avais lu un jour dans Livre Hebdo une interview extrêmement intéressante et éclairante de Jacques Goupil, qui à l'époque était directeur des éditions J'ai lu, qui, bon, comme vous le savez, une maison d'édition de poche, ce que les Anglais appellent mass market, vraiment, c'est-à-dire une très populaire. Et il avait défini ça de manière qui m'avait beaucoup plu. Les uns, alors j'essaie de redire ce qu'il avait dit, les uns, les éditeurs de l'offre, proposent aux lecteurs des livres et des œuvres qu'ils ont choisis par goût, par conviction, par engagement. Engagement pouvant être entendu aussi bien au sens strict, engagement politique, que engagement personnel, enfin dans une esthétique, dans une œuvre. Ils ne cherchent pas à trouver ou à imaginer des livres qui se vendent, ils essaient de vendre les livres qu'ils ont trouvés. Et je pense que ces éditeurs de l'offre sont des éditeurs qui portent une très très grande attention aux manuscrits qu'ils reçoivent par la poste. C'est une des caractéristiques françaises à l'intérieur de l'Europe et presque, je dirais, mondiale, que beaucoup, beaucoup, énormément de livres passent par le biais de la poste. Les autres, les éditeurs de la demande, ont analysé les désirs du public ou ont un talent particulier pour pressentir ce qui lui plaira et ils adaptent leur production à cette connaissance qu'ils ont des attentes du public. Et même si la frontière n'est pas toujours si nette, c'est plutôt des éditeurs de la première catégorie, les éditeurs de l'offre, que je parlerai. Ça ne veut pas dire que j'ai le moindre mépris ou défiance envers les éditeurs de l'offre. Il y en a de formidables. Et puis d'abord, c'est un grand talent de capter comme ça les ondes qui viennent du public. Et puis l'édition de connaissances, l'édition de savoir, c'est une édition qui se préoccupe de ce que le public attend, même s'il ne sait pas encore qu'il l'attend. Hop là, je suis désolé. Alors, le public, troisième terme de la triade, qu'est-ce que le public? Alors, moi, j'ai eu des expériences comme ça assez intéressantes quand j'étais chez Hachette. J'ai dirigé une collection chez Hachette de 1978 à 1982, à la fin 82. Et cette collection était une collection de littérature. Et c'était l'époque où on mettait des cartons dans les livres en demandant aux lecteurs de renvoyer ce carton en indiquant qui ils étaient, leur métier, leur âge, leur sexe et pourquoi ils avaient aimé le livre. Et bon, au bout de 2 ans, je devais avoir quelques milliers de cartons comme ça. On avait essayé de les regrouper et on avait pris des personnes qui, c'était les commerciaux de chez Hachette qui avaient eu cette idée pour que les ventes soient un peu boostées et pour comprendre les attentes du public. Moi, j'avais suivi ça avec une certaine curiosité. On avait sélectionné un certain nombre de personnes habitant Paris ou la région parisienne. On les avait convoquées à une réunion. Donc, il y avait un petit cocktail, etc. C'était bien sympathique. Il y avait des auteurs qui étaient venus. Et on avait essayé de les faire parler. On s'était aperçu qu'il n'y avait rien à retirer de ce, entre guillemets, panel, qu'il y avait des gens de deux sexes au moins, et de toute catégorie sociale, de tous âges. C'était absolument inexploitable. C'était très bien pour ça. Et c'est la même expérience qu'on fait quand on joue à la marchande pendant une semaine au Salon du Livre et qu'on voit des gens venir vous parler des livres que vous avez publiés. Et on s'aperçoit là aussi qu'il n'y a rien à retirer d'une éventuelle analyse des catégories sociales ou autres. Alors, puisque je suis un éditeur de l'offre, je serais presque tenté de dire que le public n'existe pas ou qu'il faut faire comme s'il n'existait pas et en revenir à la position de Lady Grovold. Ou alors, il faut faire comme s'il existait à la manière dont je l'ai ressenti un jour, il y a longtemps, et qui m'a, je crois, marqué durablement. C'était un congrès de bibliothécaires, il y a très longtemps. Il y a au moins, à l'époque, je dirigeais une autre collection, c'était Texte, chez Flammarion, c'était dans les milieux des années 70. Et donc, c'était un congrès qui se tenait à Paris. C'était des bibliothécaires qui avaient besoin de se réunir et qui avaient convoqué un certain nombre d'éditeurs ou de directeurs de collection et d'auteurs. Et là, j'étais intervenu après une lecture d'un écrivain très, très intéressant qui s'appelle Mathieu Bénézet. Et Mathieu Bénézet avait eu un texte assez, on va dire, hermétique, assez difficile. Et ensuite, il y avait des questions. Et quelqu'un, il y avait un grand silence pour commencer, comme souvent, et ensuite, quelqu'un avait levé la main et avait posé une question qui était, et par la tonalité et par la formulation assez agressive, qui était « Mais pour qui écrivez-vous » Alors ça sous-entendait « Personne ne peut comprendre ce que vous écrivez ». Et enfin, moi, c'est comme ça que je l'avais entendu. Et Mathieu Bénezet avait observé un petit moment de réflexion et avait répondu. Enfin voilà, il avait dit « J'écris pour toi ». Bon. Et ça m'avait, je dois dire, à l'époque, beaucoup, beaucoup impressionné, parce que c'était une manière de déplacer la question et de montrer qu'on n'écrit pas pour un public. Et évidemment, il ne connaissait pas la personne qui lui avait posé la question. Ce que cette histoire veut dire pour moi, c'est que l'écriture, toujours, est dirigée vers l'autre, mais que cet autre est inconnaissable. C'est l'autre secret, caché, que la lecture suscite et auquel nous n'aurons jamais accès. L'autre est inconnaissable, sinon il ne serait pas autre, l'autre. C'est pour cela que j'ai la conviction que s'épuiser à la recherche du public, cela ne vaut pas la peine. Mais il n'empêche que nous, éditeurs, nous sommes tout de même là pour que les livres que nous publions soient lus. Et pour nous, aujourd'hui, il n'y a pas un public, mais des publics. Il y a donc celui des lecteurs dont je pense qu'il est inatteignable par quelque stratégie publicitaire ou commerciale que ce soit, en tout cas directement par nous. Donc, l'anecdote achète, et puis aussi la publicité qui ne sert strictement à rien. Je l'ai expérimenté plusieurs fois. Enfin, on ne peut pas atteindre un public par la publicité. On peut éventuellement accélérer, où on en a l'impression, un succès par la publicité, mais j'en suis même pas convaincu. Et alors, le public, c'est aussi celui des intermédiaires que sont nos équipes commerciales, les libraires, les bibliothécaires, les journalistes et depuis peu de temps, les blogueurs. Si nous sommes aujourd'hui des passeurs, toujours, je l'espère, nous sommes donc aussi des médiateurs, nécessité fait loi. Nous avons à convaincre le public des intermédiaires et pour commencer, nous devons l'amener à lire ce que nous publions. Ce public des intermédiaires est composé de professionnels, bien sûr, je mets à part les blogueurs, encore qu'il y a un devenir professionnel des blogueurs, on en a un certain nombre qui maintenant ont pignon sur rue, mais ces professionnels vont devant le livre, un livre, ce livre que nous aimons par-dessus tout parce que nous l'avons choisi, se retrouver dans la même solitude que n'importe quel lecteur anonyme. Une solitude peuplée, certes, d'histoires personnelles, de références, et pour ceux dont nous parlons de réflexes professionnels, ils doivent perpétuer ou contribuer à la perpétuation de la structure qui les nourrit, à la perpétuation de la structure qu'ils ont créée, à la perpétuation de la structure dans laquelle ils ont embarqué des personnes qui ont épousé leur cause. Alors peut-être notre travail, nous les éditeurs, les passeurs, les médiateurs, consiste-t-il à retrouver en chacun de ces intermédiaires le lecteur qu'il n'a pas cessé d'être, tout en rassurant le professionnel qu'il demeure. Quelle est la place de l'auteur dans ce processus? Je serais tenté de répondre quelle est celle qu'il accepte de prendre. Il y a d'abord, avant même la publication du livre, tout l'arsenal traditionnel de la promotion, les réunions commerciales avec les représentants, les rencontres avec les libraires. Je pense que l'on ne peut forcer un auteur à s'y plier. Ce serait de toute façon contre-productif. Puis il y a la presse, les journalistes, la télévision, les nouveaux médias, web, TV, chats, etc. Là aussi, rien ne peut être fait sans l'accord de l'auteur, sans sa participation convaincue. Notre rôle est d'accompagner, de conseiller, de prévenir, éventuellement. Je pense, par exemple, qu'il y a des émissions de télévision auxquelles il ne faut pas aller, ou des émissions de radio qu'il faut éviter. Il nous est arrivé à plusieurs reprises de refuser chez POL, de refuser des invitations dans des émissions, quel que soit leur taux d'écoute, parce qu'on savait que l'auteur y serait forcément maltraité. Autrefois, il n'y a pas si longtemps, il y avait la NRF, le Mercure de France, les Lettres Nouvelles, la Revue des Deux Mondes, mais surtout la NRF et quelques journaux littéraires. Et puis, il y a eu la télévision. Au début, c'était très bien. Bon, moi, je fais partie d'une génération qui a connu Lecture pour tous. C'est une émission mythique. À l'époque, il y avait une ou deux chaînes de télévision, peut-être une. Et je voudrais... Lecture pour tous était animée par des lecteurs extraordinaires. Il y avait Pierre Dumayet, Nicole Fédresse, Max-Paul Fouché, Pierre Desgroupes. Toute figure, sinon disparue, du moins retirée des écrans. Et cette émission, il se trouve qu'un hommage a été rendu à Pierre Dumayet il y a quelque temps. Et deux films ont été réalisés par Robert Bobert, qui est également un écrivain, qui est cinéaste et écrivain, et qui a comme ça rassemblé un certain nombre d'extraits des émissions avec des interviews de Pierre Dumayet, le dernier survivant, le seul survivant. Et il y a un moment absolument extraordinaire où il y a un très grand poète français qui s'appelle Jules Supervielle, qui intervient et qui parle, qui dit des choses passionnantes. Et au bout d'un moment, il s'arrête et dit « Mais je suis peut-être un petit peu trop long ». Et Dumayet lui dit « Non, continuez ». Et imaginez ça aujourd'hui à la télévision. Bon, c'est pour donner un petit peu le rythme de cette émission. Et ces deux films, d'ailleurs, au passage, c'est une anecdote éclairante ou un élément intéressant, Ces deux films, aucune chaîne de télévision n'a voulu les passer. Maintenant, depuis un moment, c'est un peu plus compliqué. La dernière émission de grande audience et respectueuse des auteurs fut Apostrophe. Et même, concernant Apostrophe, j'ai au moins l'exemple d'un auteur. Là aussi, peut-être qu'on ne se rend plus compte de l'importance qu'a eu cette émission aujourd'hui, à l'époque, dès que le programme d'Apostrophe était connu, les libraires faisaient des piles. Et si l'émission se passait bien pour un auteur, son livre devenait presque à coup sûr, sinon un best-seller, en tout cas un livre de très bonne vente. Et je me souviens d'avoir publié un très beau livre de Marc Chuldenko, Histoire de vivant l'anon, qui était un roman plutôt érotique, et même carrément érotique. Et Bernard Pivot l'avait invité. Et Marc Chuldenko avait refusé. Et j'avoue que j'avais d'abord été très, très surpris. Et Marc Chuldenko m'avait expliqué, mais je n'ai rien à faire à la télévision. Il y a une telle antinomie entre le discours d'un écrivain et le discours qu'on lui fait tenir à la télévision que je ne peux pas y aller, ça dénaturera ce que je fais. Parce qu'il avait compris, et je veux dire, c'est maintenant une banalité, en tout cas à l'époque ça se disait moins, que la télévision, si elle se nourrit aussi de livres et de littérature, ça n'est pas toujours pour servir les livres et la littérature, c'est pour se servir elle-même. Alors pourquoi tant de fatigue, tant de stress et parfois, souvent, tant d'humiliation ? Alors, devant les médias, quel est le rôle de l'éditeur ? L'éditeur n'est pas un conseiller en communication. Là, je vais avouer des fautes anciennes. Quand, justement, Pivot avait cette importance, d'ailleurs, en grande partie justifiée, parce qu'il parlait bien des livres, on faisait des vidéos training. Voilà. Donc, je me souviens avoir, notamment, quand mon premier auteur a été invité à la télévision, la première fois qu'un auteur que je publiais a été invité à la télévision chez Bernard Pivot, c'était pas Renaud Camus, mais une précédente expérience avait été désastreuse avec un autre auteur qui n'était pas fait pour la télévision non plus. On avait fait une séance de vidéo training et on avait aussi fait ensuite avec Emmanuel Carrère, quelques temps après, une séance de vidéo training qui avait donné ce qu'elle donnait, mais maintenant, bon, c'est le genre de choses qu'on ne fait plus parce que tout le monde sait parler devant une caméra. Bon, cela dit, l'éditeur n'est pas un coach. L'éditeur est là pour protéger l'auteur qui lui a confié ses livres. Il est tout simplement là pour lui permettre de poursuivre son œuvre dans les meilleures conditions possibles, y compris de notoriété. En fait, je crois que le succès ne se décrète pas ni ne se provoque. S'agissant de littérature, le succès peut être le résultat de longs efforts, le fruit d'un travail qui peu à peu s'est imposé, un aboutissement. Quand Marine Diaye a reçu le Goncourt la semaine dernière, elle a eu une phrase qui m'a beaucoup plu, qui était « c'est l'aboutissement ». En fait, il faut savoir aussi, vous le savez sans doute, que quand elle a eu le Goncourt, son livre était déjà un gros succès. C'était son premier succès, si on accepte le Fémina, qui était un succès un petit peu comme ça, accidentel, artificiel. Les trois femmes puissantes, on était à un peu plus de 120 000 exemplaires, je crois, quand le Goncourt a été attribué. Donc c'était le vrai premier grand succès de Marine Diaye. Et elle a eu cette phrase, ben voilà, c'est l'aboutissement de 25 ans d'efforts et de travail solitaire. Bon, le succès peut être aussi la conséquence d'un accident. Parmi les accidents, un prix littéraire, on l'a vu, ou un sujet que l'actualité recoupe. Je me souviens avoir publié en 2000 le premier livre de Atik Raimi, Terre et cendre, qui s'était correctement vendu pour un premier livre, pour un livre un peu particulier, on avait dû atteindre 2000 ou 3000 exemplaires. Un an après, il y a l'assassinat du commandant Massoud et l'attentat sur les tours américaines. Et le livre a démarré de manière absolument insensée. On en est arrivé en un mois à 40 ou 50 000 exemplaires. C'est un exemple. Voilà, Dieu sait que c'est un accident sur un autre plan. Mais comment un livre qui avait eu un tout petit succès s'est transformé en un quasi-best-seller. C'est aussi un événement c'est un événement que nous avons mis à notre profit, GPOL, en remettant le livre dans les librairies, parce que, compte tenu de la nationalité de l'auteur et de ce qu'il racontait dans son livre. Mais c'est aussi notre travail de créer des événements. Alors, bon, je prendrai un exemple, c'est celui de Marie Dariussecq, donc j'avais reçu le manuscrit par la poste, et le manuscrit est ce qu'il est, il est avec le talent qu'a Marie Dariussecq, mais il se trouve que le livre paraissait en septembre, et dès le mois de juin, nous l'avions vendu dans quatre pays, dont les États-Unis. Donc évidemment, et puis elle avait été acceptée aussi par 3 autres éditeurs, je ne sais plus. Donc je me suis promené dans les salles de rédaction et mon attaché de presse avec moi pour dire, elle a été acceptée par 3 autres confrères et elle a déjà 3 ou 4 traductions. Donc là, on s'est servi d'événements qu'on a transformés comme ça pour aider à la promotion du livre. Mais dans les deux cas, celui du succès aboutissement comme celui du succès accident, rien ne peut se faire sans une parfaite entente entre l'auteur et son éditeur. Cela paraît couler de source dans le premier cas, puisque l'aboutissement vient après de longues années de travail en commun. C'est moins évident dans le second cas. Rien ne doit se faire sans le consentement de l'auteur et hors du respect qui lui est dû. Certains auteurs aiment bien aller à la télévision, répondre aux interviews, être pris en photo, rencontrer des gens, participer à des chats. Pourquoi pas ? Nous sommes là pour faire en sorte que cela se passe bien. Et bon, je ne voudrais pas mettre la maison forcément en exemple, mais il y a une politique que nous suivons et qui correspond à cette idée que nous avons d'accompagner et de protéger les auteurs. C'est que, quelle que soit l'émission, quelle que soit l'interview, nous accompagnons l'un ou l'autre dans la maison, accompagne les auteurs à la maison de la radio, à la télévision, etc. Et ça va même, y compris quand il y a des signatures en librairie en province, dans la plupart des cas, nous efforçons de trouver le temps d'accompagner les auteurs. Et aussi dans les salons du livre, évidemment, et aussi à l'étranger. Alors ça a le côté, c'est un côté assez agréable. Quand on a des auteurs qui sont bien traduits, on voyage beaucoup. Mais laisser un auteur tout seul voyager à l'étranger avec tous les problèmes d'emploi du temps qu'il peut y avoir, les postes français à l'étranger qui ne sont pas toujours à la hauteur, qui sont parfois un peu négligents, mais il est important que nous soyons là pour assister l'auteur. Alors, nous n'avons rien à imposer. Encore une fois, l'auteur accepte ou refuse et c'est, je pense que c'est la base de la relation. Le rôle de l'éditeur est de publier, son rôle est d'éditer, donc, y compris au sens anglo-saxon du terme, pour une fois, l'editing, c'est-à-dire le travail de directeur littéraire. Son rôle est de permettre à l'auteur de publier dans les meilleures conditions possibles, les meilleures conditions matérielles, les meilleures conditions de travail, de sérénité, d'accueil, y compris face aux médias. Y compris dans l'environnement mouvant actuel, il me semble qu'il y a dans la relation auteur-éditeur des fondamentaux essentiellement basés sur une confiance réciproque qui ne sont pas. Merci.